parole du jour avec le père Daniel Rambure.
Bonjour auditeurs de Radio Grand-Ciel. Aujourd'hui, le 11 novembre, nous fêtons dans l'église Saint-Martin. C'est souvent une fête qui est éclipsée par les fêtes nationales, de l'armistice et de la fin des guerres. Mais enfin, je voudrais vous parler aujourd'hui de Saint-Martin. Et avant de parler de Martin, du 4e siècle, d'abord, jetons un coup d'œil sur la situation sociale et religieuse dans nos contrées. Il y a eu donc la conquête de Jules César avec la paix romaine. Le pays s'organise en termes d'institutions, d'artisanat, d'agriculture. Mais à la fin du IVe siècle, à mesure que l'Empire s'affaiblissait, sous les coups d'invasion, tout progrès avait cessé. Le territoire était envahi. Une foule de pillards et aussi d'incendiaires, d'éferles. Ça vient de Germanie, les Gaules, les Saxons, même les Francs. Le christianisme, lui, arrive à Lyon vers la fin du 1er siècle et au milieu du 4e siècle à Chartres. Ce christianisme allait inaugurer une situation nouvelle. C'est le rôle des ermites et des moines qui fut capital, car après la fin des persécutions, avec l'édit de Milan en 313, la vie monacale et va se mettre en place sous le règne de Constantin. Alors, avant même de parler de Martin, il faut que nous connaissions d'abord Hilaire, saint Hilaire de Poitiers. Saint Hilaire est né en 310 ou 315, on ne sait pas très bien, à Poitiers même, tandis que Martin, lui, est né en 316-317, vous voyez, c'est la même génération. Hilaire est né à Poitiers, dans une famille riche, aisée, et païenne. Il demande le baptême à 35 ans. Il est très cultivé, et c'est en lisant la Bible qu'il découvre qu'il y avait là une vérité qui donnait du sens à la vie et que l'on ne trouvait pas dans les cultes païens. Donc, il est baptisé à 35 ans, et 10 ans après, en 353 environ, il est nommé évêque, élu par les Poitevins, évêque de sa ville natale. Très vite, Hilaire se trouve confronté aux grandes questions théologiques de l'époque. Il y avait en particulier une hérésie qui faisait florès. L'empereur lui-même va devenir, c'est l'arianisme, l'empereur va devenir arien. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut concevoir que Jésus-Christ soit à la fois Dieu et homme? Les ariens disent, mais c'est un homme qui a été adopté par Dieu, ou bien au contraire, c'est Dieu qui a fait semblant d'être un homme. Voilà. Et Hilaire va défendre la foi de Nicée, où en 325, il est défini que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Et pour cela, pour cette défense, il va être exilé par l'empereur, qui donc, je l'ai dit, est devenu arien. Ça va être l'occasion pour Hilaire de rencontrer le grand Athanase d'Égypte, d'Alexandrie, qui avait voulu fonder les premiers moines en Orient, qui a écrit la vie de saint Antoine. Et revenu à Poitiers, c'est un homme qui a une grande envergure, qui travaille beaucoup. Il a écrit, ça se lit toujours, je travaille toujours dans les séminaires, ce qu'on appelle le De Trinitate, c'est-à-dire la foi unique en la Trinité. Et déjà de son vivant, Hilaire est très connu un peu partout. Il connaît une grande vénération et qui dure encore aujourd'hui. On voit que beaucoup d'églises portent son nom dans notre diocèse. Alors, j'en arrive à Martin. Martin est donc né en 316-317, lui en Hongrie. Son père est militaire de l'armée romaine. Comme pour Hilaire, il est de famille païenne. Lorsqu'à 15 ans, son père l'oblige à entrer dans l'armée. Et l'armée le conduit jusqu'à Amiens. Il découvre là le christianisme et devient catéchumène. Catéchuménat qui avait duré 2 ou 3 ans. C'est ainsi qu'au cœur d'une ronde se déroule l'épisode connu et maintes fois répertorié dans l'art. C'est le partage de son manteau avec un pauvre. Martin a entre 18 et 19 ans. Ses collègues se moquent de lui. Mais son biographe, Sulpice Sévère, raconte que Martin avait eu un songe qui lui montrait Jésus qui portait le manteau, le demi-manteau qui avait été donné aux pauvres et qui disait « Je suis couvert du vêtement que tu as donné ». C'est une allusion au chapitre 25 de saint Matthieu. « J'avais froid, tu m'as couvert, j'avais faim, tu m'as nourri, etc. » Et voilà. Martin est baptisé en 339. Il a donc 23 ou 24 ans. Et quelques années après, il quitte l'armée. Il va pouvoir s'engager dans une autre lutte pour un autre chef, sous un autre chef. Ça va être justement Hilaire, qui était déjà connu et que Martin a voulu venir rencontrer. Il avait peut-être entendu parler de lui avant, en tous les cas donc il va jusqu'à Poitiers. Hilaire confie à Martin le soin de fonder une abbaye, l'abbaye de moines, la première abbaye de moines dans la région, à Ligugé. Vous voyez, Hilaire qui avait entendu, qui avait vu avec Athanase le développement des moines en Orient, veut faire la même chose chez nous en Occident. Alors, Martin va rester une dizaine d'années à Ligugé, fonder cette abbaye. Et beaucoup de disciples vont venir se joindre à lui. Et puis voilà que les Tourangeaux viennent le chercher pour être évêque. Ce ne sont pas les autres évêques qui l'ont choisi. Il était même plutôt un petit peu contre, parce que les autres évêques étaient plutôt de l'aristocratie. Or là, ce Martin, ce brave soldat, vient de Hongrie. Ce n'était pas tellement dans la liste de ceux qu'ils pensaient nommer évêques. Ce sont les Tourangeaux qui sont venus le chercher. Il a été ordonné évêque le 4 juillet 370 ou 371. Il avait 55 ans environ. C'est le peuple qui vient l'arracher de Ligugé et le conduit sous bonne garde jusqu'à Tours. Martin était très différent donc des autres évêques. Il va rester 26 ans évêque de Tours. Et donc là, il va fonder l'abbaye de Marmoutier, où il va vivre avec d'autres moines. Mais vous savez, ce n'est pas un moine qui reste enfermé dans son abbaye. Il va courir toutes les contrées autour de Tours. Bien sûr, il vit une certaine vie austère avec les moines et avec les prêtres qui l'entouraient. Mais il cherche en particulier à combattre le paganisme qu'il découvre dans les campagnes. C'est la grande œuvre de sa vie d'évêque. Il envoie des moines dans toutes les campagnes. Il fonde des paroisses rurales. Martin va dans le Berry, il vient à Chartres, dans le Perche, il va à Sens, dans la région d'Autun, dans la vallée du Rhône, à Vienne, etc. Toujours pour évangéliser. Il est bien évident qu'un évêque de cette stature-là ne pouvait qu'incommoder un certain nombre de gens, et spécialement des pouvoirs publics, auxquels il dut s'affronter pour faire respecter la justice, pour s'opposer à toutes ces compromissions, quelquefois même de répression. Et bien entendu, il a rencontré des farouches adversaires. Il était plus qu'octogénaire quand il visitait encore ses fondations. Et bien que épuisé, il voulut encore aller une fois à Candes, ou Candé, bon, c'est au bord de la Loire, pour régler un conflit chez ses moines, chez les prêtres qui étaient dans la paroisse. C'était tout près d'Amboise, on était en 397, et c'est là qu'il sentit la mort approcher. On connaît la prière et les derniers mots ultime de Martin, et que c'est repris dans la prière qui est faite pour la messe de Martin. Dieu qui a glorifié par la vie et la mort l'évêque Saint-Martin, renouvelle nos cœurs les merveilles de ta grâce. Bien que, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Voilà. À lundi prochain.